un but, c'est-à-dire que nous avions les ouvriers. Et les ouvriers, pour nous, étaient devenus nos frères dans ces conditions-là. Et on travaillait pour eux. On était à leur service, en réalité. C'est eux qui ont fait le film. C'est eux qui nous ont dit, prenez ci, prenez ça, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est notre problème, notre drame. Et c'est à la suite d'une enquête faite par le docteur Enbert, c'est le médecin que vous avez vu dans une des scènes. Et que ça s'appelait « On crève de faim » ou « Le vent de Mons ». Le vent de Mons, c'était un des charbonnages que nous avons d'ailleurs montré. Il est fermé maintenant, comme tous les charbonnages. Et le club de l'écran, qui était dirigé par Pierre Vermeil et André Trifailly, avait eu connaissance de cette brochure, ils l'avaient lue et ils avaient estimé à ce moment-là les clubs de cinéma étaient en même temps producteurs de films. Et ils m'ont demandé, je faisais partie de ce club, de tourner ce film. Et ils ont réuni un peu d'argent. Evans et moi, nous l'avons réalisé avec très peu de moyens et sans être payés, bien sûr. Et nous l'avons réalisé avec un grand désintéressement, tout le monde d'ailleurs. Et voilà l'urgence quand nous avons été voir là-bas sur place. Moi, j'ai demandé à Evans de m'aider parce que je ne me sentais pas assez fort pour aborder un problème qui avait quand même des résonances politiques. J'étais un enfant de la bourgeoisie moyenne, commerçante. Et Evans aussi, d'ailleurs. Son père avait un magasin de photographie, mes parents, moi, avaient un magasin de chaussures. Et le monde ouvrier nous était très mal connu. Alors, nous avons été indignés et bouleversés parce que nous avons vu, et c'est ça l'urgence. Nous n'avons pensé aucune esthétique, aucun chose. La brochure du docteur Enberg qui nous a servi de scénario. Il nous a accompagnés là-bas, il nous a introduits auprès de tous les gens qu'il avait visités, ainsi que Jean Fontaine, qui s'occupait du Secours ouvrier international, qui lui avait aidé les grévistes, etc., par des dons de la nourriture, etc., des soins, comme ceux du docteur Enbert.
Et comment le film a-t-il été produit ?
Ah. Eh bien, comme je vous ai dit, par le club de l'écran.
Uniquement
le Cineclub. Ah oui, uniquement le club de l'écran. Et après, ça a été repris par une ASBL qui s'appelait Éducation par l'image.
Oui.
Et qui était dirigée d'ailleurs par Jean Fontaine.
J'aimerais savoir comment votre film a été reçu par le public.
Notre film n'a pas été très bien reçu par la presse socialiste parce que, évidemment, le film a été tourné dans ce micro. Il a des faiblesses. Bon. Il s'évanouit. Mais c'était très mal. C'était un groupe, évidemment. Nous étions surtout en contact avec un groupe de gens d'extrême gauche. Et vous savez, le borinage d'un fief socialiste, ils n'aimaient pas du tout qu'on montre à l'écran cette misère qu'ils n'avaient pas parvenu à éradiquer complètement. Évidemment, il ne s'agit ici pas de l'ensemble de la classe ouvrière du borinage. La misère, nous avons montré, mais nous la trouvons suffisamment scandaleuse pour la dénoncer. Et c'est une misère d'une minorité, bien sûr. Mais enfin, alors les socialistes avaient trouvé que notre film était exagéré, enfin qu'il était partial. Ce qui est possible, mais ce n'est pas une raison pour ne pas montrer ces choses qui sont absolument scandaleuses dans un pays comme le nôtre. Et j'ai fait un film sur les taudis. Et encore maintenant, il y a un quart monde en Belgique. Il ne faut jamais oublier cela. Il y a encore des gens qui sont dans des situations extrêmement pauvres.
Et
ça ne devrait pas exister dans un pays comme le nôtre, en tout cas.
Est-ce que le film a pu être projeté dans des salles ?
Écoutez, non, pas du tout. Il n'a été projeté que dans des ciné-clubs, dans des milieux très, très fermés, parce que le Parti Socialiste avait 1500 salles, les Maisons du Peuple, qui projetaient des films, mais c'était des films où on montrait ce que la classe ouvrière voulait voir, c'est des films avec des belles maisons, des messieurs dames bien habillés, vous comprenez, c'était le rêve. Moi-même, ça ne va pas. Ah oui, bon. La classe ouvrière ne voulait pas voir sa propre misère. Et en tout cas, le Parti Socialiste ne voulait pas projeter ce film. Mais par la suite, ce film a été... Ivens l'a emporté en Russie, où on a fait une version russe, qui est une chose assez ridicule. Ça devenait un film de propagande. Et ça, je peux vous en dire deux mots, comment on faisait la propagande à cette époque. C'était la construction du métro de Moscou qui avait commencé déjà au début des années 30. Et c'était les ouvriers mineurs, puisque Moscou est construit sur du rocher, qui perçaient les grandes galeries de ce métro assez fabuleux. Et alors, il y a une délégation de mineurs belges qui est allée visiter Moscou, et les mineurs russes, alors, les ont invités chez eux à un grand dîner quand ils ont vu la misère. Alors oui, ils ont apporté le film, bien sûr, ils l'ont projeté, et les Russes ont dit « Ah, mais chez nous, on mange très bien, et puis il y a de belles maisons ». Et c'est vrai qu'on avait construit des maisons pour les mineurs, et que... Le Parti communiste, alors, a organisé un énorme banquet qu'on a filmé. Pendant que les Russes et les mineurs belges mangeaient avec un grand appétit toutes sortes de mets extraordinaires, on montrait des images, on intercalait avec des images pour montrer le contraste. Ça, c'est un genre de propagande que je déteste. Et Ivens a fait ça sans mon... Je lui en veux pas du tout, parce qu'il était militant, lui. Et Pourquoi ça se passe-t-il? Allô? Oui, ça va? Bon. Allô?
Oui, c'est bien.
Vous entendez, bon. Alors... Je n'ai même jamais vu cette version russe qu'il y a quelques années seulement, donc 50 ans après, et parce qu'elle était, merci, parce qu'elle était au musée d'art moderne de New York. Je ne sais pas comment elle était parvenue là. Il faut dire qu'Ivens, après le film, est parti aux États-Unis. Il l'a projeté à Hollywood. Et là, tous les grands metteurs en scène, au cours d'une séance, sont venus voir le film. Ensuite, il l'a projeté également en Russie aussi. Et ensuite, il l'a projeté en Angleterre. Et là, le film a fait beaucoup d'effets. Et John Grierson, qui était le chef du cinéma anglais, m'a dit « Ceci est un des films qui nous a... au début, incité à nous lancer dans le documentaire. Et alors, depuis lors, évidemment, le film a fait une carrière tout à fait mondiale. Il est projeté dans énormément de festivals. Beaucoup de cinémathèques ont des copies, etc.
J'ai deux questions de l'anglais. Est-ce qu'il y avait un changement suite à la projection de ce film? Est-ce que ça a amené des changements?
Non.
Soit dans le milieu de l'ouvrière?
Non. Le film n'a eu aucune influence ni sur les milieux politiques, ni sur les milieux syndicaux, ni rien. Mais maintenant, après la guerre, maintenant, le film... film a été beaucoup projeté au Borinage, beaucoup discuté, parce que tous ces problèmes de chômage, de grève, d'entreprise, il y avait 600 000 chômeurs, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'époque, 600 à 700 000 chômeurs en Belgique. Et c'était la crise qui avait éclaté aux États-Unis en 1929. Et maintenant, on discute encore beaucoup du film. Le film sert surtout à des débats au sein de la classe ouvrière.
Et la deuxième question, c'est comment vous avez décidé de choisir l'ordre des images dans le soldat inconnu ?
Ah, mais tout est symbolique, hein. C'est un jeu de l'esprit, ça correspond. Comme je l'ai dit, ce film est une réaction. En 1928, moi je faisais mon service militaire et là, les officiers n'arrêtaient pas de nous dire « c'est la guerre des guerres, la guerre de 14-18, où il n'y aura plus jamais de guerre ». D'ailleurs, sur le fameux monument de l'Isère, n'est-ce pas, qui est devenu le monument des nationalistes flamands, mais qui était à ce moment-là le monument des combattants flamands de la guerre 14-18, il était marqué dans toutes les langues, y compris le français, « plus jamais de guerre ». Donc ça a été une des grandes illusions, des grands idéaux après la guerre de 14-18. D'ailleurs, le président Wilson, idéaliste aussi, comme Kellogg, qui a eu le prix Nobel de la paix après avoir signé ce pacte, avait créé la Société des Nations, dont le but était également, comme l'ONU aujourd'hui, d'éviter les guerres. Donc, nous étions imprégnés, les jeunes soldats, tout ça, de l'idée qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Et en visionnant en 1932 ces copies de 28, j'étais frappé de voir qu'en réalité, on réarmait déjà. Et toute la période, comme pendant, nous disons, les glorieuses, les années 60, 68, tout ça, pour moi, c'est de la foutaise, parce que on n'a pas cessé de réarmer depuis la bombe atomique, on n'a pas cessé d'accumuler les missiles sous prétexte de guerre froide, n'est-ce pas ? Et on continue. De plus en plus de pays veulent la bombe atomique, etc. Enfin, on surarme. Donc la situation n'a pas du tout changé. Donc nous allons, je ne sais pas, nous allons pas faire quoi, puisque l'avenir est improbable. Mais les situations n'ont pas changé, je crois. Et alors, je me moque des hommes politiques, mais je crois qu'ils sont aussi inconscients que les peuples, que la population, de ce qui se passe réellement. Ils jouent le jeu. Vous voyez bien maintenant Chirac, il recommence les essais nucléaires. C'est absurde. Et les autres chefs d'État de l'Europe l'encouragent. Alors, voulons-nous ? Oui ?
Je voulais vous demander, vous avez certainement à diverses reprises vu filmer des scènes où il y avait confrontation entre les ouvriers et la gendarmerie et les soldats. C'était des conditions de filmage télévisible. Est-ce qu'il y avait une sorte de gentleman agreement ou bien vous avez eu des problèmes ?
Non, les scènes avec les gendarmes et tout ça, les scènes sont des scènes tirées. Dans Borinage, il y a beaucoup de scènes tirées des journaux d'actualité de l'époque. N'est-ce pas ? Tout ce que vous avez vu comme bagarre avec les gendarmes, c'est tiré d'actualité de l'année 32, l'année de la guerre, l'année de la grève. Nous avons fait le film en l'année suivante, en 33, pour montrer les conséquences de la grève, puisque tous les ouvriers qui avaient fait la grève, on leur refusait du travail. Alors, on expulsait les gens, les charbonnages étaient propriétaires des maisons, ils expulsaient les gens, ils coupaient l'eau, ils coupaient le gaz, c'est un peu comme à Sarajevo aujourd'hui, quoi. Les gens vivaient dans ces conditions-là. Les gens ne pouvaient plus payer les loyers. Et pendant la grande grève de 1932, il y a eu une solidarité extraordinaire au Borinage. Les grandes sociétés de consommation, enfin les coopératives, je veux dire, et les épiciers, tout ça, ils faisaient crédit aux gens, parce que les gens, non seulement n'avaient plus d'argent, puisqu'il n'y avait plus de salaire, mais ils avaient acheté des choses, ils avaient acheté des radios, des meubles, ils ont tout dû rendre, puisqu'ils ne savaient plus payer les traites. Et alors, il y a une solidarité, les épiciers et les firmes ont fait crédit, puisque la grève a quand même duré 2 mois et a été un échec total. Enfin, un échec total, non, parce que certaines revendications des mineurs ont été satisfaites, puisque la principale revendication, c'était l'impôt sur le pain. Je ne sais pas, on avait imaginé de faire un impôt sur le pain. Ensuite, on diminuait les salaires, parce que les salaires étaient rattachés au prix du charbon. Et comme le charbon belge coûtait plus cher que le charbon anglais, et que les entreprises en Belgique achetaient du charbon anglais, les salaires ont baissé 5 fois en 2 ans. Alors ils ont demandé qu'on arrête la baisse des salaires. Ça, ils ont obtenu aussi. Alors ils ont encore obtenu diverses revendications que j'ai notées, mais il faudrait que je recherche les papiers. Bon. Enfin, ça, c'était les principales.
Monsieur Stock,
oui.
Je voulais vous demander, en voyant le film Histoire d'une certaine école, ça faisait penser au montage d'actualité qui se faisait peut-être en Russie justement par Zygmunt Hartog. Donc, vos influences à cette époque-là, c'était quoi?
Ben non, mais j'ai vu les films de Zygmunt Hartog beaucoup plus tard. Et non, je n'avais aucune idée de tout ça. Il y avait quand même eu en Russie une dame qui s'appelait Esther Schupp qui avait eu accès à toutes les actualités d'avant la guerre de 14 et avait fait un film sur les grandes manifestations de l'époque et notamment la chute des Romanov. C'est un film, si jamais on pouvait le projeter ici, qui est absolument extraordinaire, où on voit toute la vie des tsars, toute cette vie somptueuse, luxurieuse, enfin de grand luxe, et on comprend un petit peu le point de vue des ouvriers russes, enfin en 17. Alors, non, je n'avais pas, c'est-à-dire, j'avais un laboratoire au stand et je travaillais, mais ce micro m'embête. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment personne qui peut me le fixer? Bon. Quoi? Ah, vous pendez votre sac, c'est très bien. Ça. Parce que je ne vois pas, j'attrape des lumières dans le visage, je ne vois rien. Ah. Écoutez, si je parle trop, il faut le dire, hein, parce que je suis un peu bavard, moi. Non, il va retomber.
Peut-être j'aurais une question.
Oui, alors.
Vous comprenez du travail de Pépoine Meillard en ce moment, en tentant de reprendre le film sur les problèmes qu'ont connus les mineurs dans les années 60.
Sur quoi?
Sur les problèmes des mineurs des années 60 en Belgique.
Non, je sais qu'il est en train de tourner quelque chose, enfin de monter quelque chose, mais je dois dire, je suis content que vous citiez le nom de Paul Meyer, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son film, là. Déjà S'envole la fleur maigre. Je trouve que c'est une œuvre extraordinairement réussie. Bon, alors je vous disais, oui, comment l'histoire du soldat inconnu, comment c'est venu. Je développais les actualités de la firme Éclair Journal à Bruxelles. Et un jour, le directeur m'a convoqué à Bruxelles et il m'a dit, voilà, écoutez, j'ai un problème. C'était en 32. Depuis 4 ans, il y a le président de la Fédération d'athlétisme qui me scie les côtes parce que je lui ai promis imprudemment de lui découper dans les actualités de 28-29 tout ce qui concerne l'athlétisme en Belgique. Et je ne trouve personne pour faire ce travail. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait que 5 ou 6 cinéastes en Belgique. Alors, il dit, est-ce que vous ne voulez pas faire ça ? J'ai dit oui, à condition que je puisse tirer moi-même de ces actualités 2 ou 3 petits courts-métrages. Alors il a dit, je vais demander à Paris. Et bien, bon, alors il m'a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez les droits, etc. Et voilà comment c'est venu. Il faut dire qu'avant ça, j'avais passé 2 ans à Paris déjà, et j'avais fait partie d'une association qui s'appelait Association des écrivains et artistes révolutionnaires, où j'avais donc eu l'occasion de rencontrer Buñuel, Vigo et bien d'autres, et où nous avions discuté beaucoup de tous ces problèmes. D'ailleurs, j'ai discuté longuement le scénario du film Borinage avec Buñuel. Donc j'avais déjà une espèce de conscience politique qui m'a permis de faire ce pamphlet satirique, qui a été interdit par la censure française, ça bien sûr, comme outrage à l'armée française. Bien, est-ce qu'on termine là ou... Ça, je ne suis allé voir. Je n'ai pas du tout envie de voir des mineurs, des comédiens jouant les mineurs. Non, 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 non. Malgré que j'ai la plus grande admiration pour Renaud, mais, et même pour les producteurs de ce film, mais je regrette, mais je ne peux pas, je ne pourrais pas aller voir ça.
Oui, je voulais votre avis.
Vous êtes de mon avis ?
Non, j'ai
vraiment... Ah oui. Ben, je ne fais pas de la... Ils ne vont pas me faire un procès pour ça, mais enfin...
Attendez. Ah. Nous avons eu la semaine dernière un concours de rappeurs, de New Wave, tu vois.
Ah oui.
Ils se sont couchés sur les micros.
Ah bon. Je te remercie. Non, mais il a des tendances à la baisse. Hein. Donc je remercie aussi la Vénerie et mon vieil ami Mirko Popovic, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est un homme admirable. Très bonne question. Et comme il nous était impossible de faire appel, évidemment, à la gendarmerie pour figurer dans cette scène, nous ne pouvions pas prendre la gendarmerie, d'ailleurs, nous faisait des noises. Nous avons tourné dans une semi-clandestinité, et surtout Evans, n'est-ce pas, parce qu'il était étranger et suspect, parce qu'il venait de tourner un film en Union soviétique. Alors, un très beau film d'ailleurs, qui s'appelle Komsomol. Mais il était complètement dégoûté de l'Union soviétique après ça. Il m'a dit, il n'y a aucune liberté. J'ai dû discuter pendant 2 ans avec les syndicats, avec les jeunesses, avec toutes ces organisations, pour des points de vue idéologiques et tout ça. Voilà. Alors il dit, en travaillant ici en Belgique, c'est la liberté totale, c'est merveilleux, on fait ce qu'on sent, on fait ce qu'on veut. Alors, je ne sais plus ce que je disais là. Vous avez demandé, alors nous ne pouvions pas demander, comme les gendarmes ne nous avaient pas d'un bon œil, et essayaient de nous traquer tout le temps, et surtout d'attraper Ivens filmant, parce qu'il aurait à ce moment-là été expulsé de Belgique. C'est ça qui le menaçait. Alors, moi je pouvais tourner, parce qu'en Belgique il ne faut pas d'autorisation. C'est un des rares pays, c'est un pays d'une liberté extraordinaire, où il ne faut pas d'autorisation pour tourner. Tout le monde peut tourner dans la rue, etc. Tandis qu'à Paris ou ailleurs, il faut des autorisations dans la rue et partout et pour n'importe quoi. Alors, nous avons dit ceci, on va reconstituer cette scène dans la maison où ça s'est passé avec les gens qui en étaient les acteurs et en même temps, ils vont refaire exactement leurs gestes. Quant aux deux gendarmes dont nous avons besoin, on va faire venir des costumes de Bruxelles et on va essayer de trouver des ouvriers ici qui voudront bien revêtir ces uniformes maudits. Et il y en a deux qui ont bien voulu se sacrifier, ce sont ceux que vous voyez. Mais pour le reste, c'est comme également l'histoire du portrait de Karl Marx, on nous avait raconté que ça avait eu lieu quelques mois auparavant. Et nous avons demandé, est-ce qu'on peut recommencer cette scène-là? Alors ils ont dit oui, nous allons refaire la manifestation. Et la population a cru que c'était une nouvelle manifestation. Non, mais ça prouve que c'est vrai, quoi. On peut reconstituer de façon à ne pas mentir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que c'est nécessaire souvent dans les documentaires. Les policiers, oui. Oui, mais ils sont arrivés trop tard. Parce qu'ils avaient des techniques. Hein. Dès qu'il y a un policier en vue, il y avait des policiers à vélo, etc. Dès qu'on les aperçoit de loin, on rentre dans les maisons.
Est-ce que les
ouvriers
étaient conscients de la portée politique que vous alliez faire?
Oui. Ils ont beaucoup compté sur ce film. Ils ont beaucoup compté sur ce film, mais je ne sais pas si ce film... Je ne sais pas les conséquences vraiment réelles de ce film. C'est très difficile à évaluer.
J'espère que vous êtes un peu réticents à vous faire entrer dans l'univers de leur misère, surtout dans la deuxième partie, là, quand ils sont évincés de leur logement et doivent se retrouver dans des baraquements insalubres. Vous avez eu la difficulté à les convaincre de ça
de quoi? Les convaincre
de filmer cette misère des enfants
qui sont... Ah non, ils voulaient qu'on le montre. Ils trouvaient qu'ils étaient arrivés dans un état de dégradation qu'il fallait montrer. Qu'il fallait au contraire montrer. Parce qu'il y avait trop de contrastes. Il y avait le courant électrique, il y avait ces tas de charbon là qui pourrissaient, alors qu'eux n'en avaient pas. Tout ça les scandalisait, tout ça les indignait. Et je dois dire qu'évidemment, ça aussi, les hommes politiques de l'endroit, etc. Mais voyez-vous, par exemple, un grand homme politique du Borinage, c'était Louis Pierrard. Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait pendant la grève? Il a écrit une lettre au roi Albert en disant « Pensez un peu à nos pauvres mineurs ». N'oubliez pas d'y penser, sire, c'est tout, d'avoir une réflexion pour eux. Enfin, c'est pas comme ça qu'on agit. Ils ont voulu d'ailleurs faire une grande manifestation montée à Bruxelles, je sais pas, et il y a un énorme cortège de mineurs qui a été stoppé sur la route de Mons à Bruxelles, avec toute une série de gendarmes et des mitrailleuses, etc. Et les gendarmes étaient bien décidés à tirer dans la foule. Non, ça a été grave. Le gouvernement, c'est le gouvernement de droite de Brockville qui s'est affolé complètement.
On va prendre une dernière question, si vous en avez une.
Comment ?
Je voulais savoir combien de temps a duré la préparation et le tournage du film, et si vous êtes resté tout le temps sur place pour le tournage.
Ah ben bien sûr, ça, bien sûr, la préparation a duré, mettons, 3-4 semaines, et on a tourné le film pendant un mois à peu près, le mois de septembre.
Merci. Alors, merci beaucoup, Christophe, de nous avoir consacré tout ce temps. On sait qu'il n'a pas non plus beaucoup parlé en public, alors on en est d'autant plus connu. Moi non plus,
merci.